l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio.
Africa.
Salut et bienvenue à tous. Comme tous les lundis à 20h11, le rendez-vous est pris pour votre émission consacrée au football sur le continent et hors du continent, avec une actualité de ce soir consacrée sur l'Afrique, bien sûr sur le continent, de l'inauguration du stade de Côte d'Ivoire en pleine préparation pour la CAN 2023 et analyse du match qui s'en est suivi. Nous parlerons du football, bien sûr, comorien et aussi des brefs glanés par ici et par là sur le continent. Ensuite, place aux championnats régionaux et avec le championnat espagnol, d'Angleterre et de France. Nous parlerons aussi du tirage au sort des clubs français en Ligue des Champions. Ce soir, pour vous présenter toutes ces informations, le doyen Willy Dorkono, Hakim Djerouad et bien sûr Christian Chango. Au niveau des relations, ce sera bien sûr Madame Hélène Bizio.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Et nous commençons, bien sûr, nous commençons encore une fois, doyen Willy, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Hakim, Christian.
Bonsoir à Hakim Djelouat, bonsoir.
Bonsoir coach Lamine Badiane, bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices, bonsoir à Willy Dorkenou sur le plateau et bonsoir à Hélène Bizio et un coup aussi à Christian et à tous ceux qui nous écoutent depuis Abidjan. Alors,
Christian,
et
bien sûr, qui va nous rejoindre en cours de match. Puisque le match n'est pas fini, il ne vient que commencer. Messieurs, comme je le disais tout à l'heure, donc à partir de 20h13, votre rendez-vous hebdomadaire avec, bien sûr, le football, tout feu, tout foot. Aujourd'hui, et nous allons parler donc de l'inauguration du stade en Côte d'Ivoire, en pleine préparation pour la CAN 2023. Et puis, on va analyser le match qui s'en est suivi, doyen Willy. Il s'agit du match entre l'ASEC d'Abidjan et l'Africa. Des rencontres que l'on connaît et qu'on suit tout le temps, ce qu'on appelle le derby.
Oui, mais depuis mon enfance.
Bien sûr.
C'est un classico, ivoirien.
Oui, nous parlerons bien sûr du football comorien et des brèves aussi qu'on a glanées par-ci, par-là, sur le continent. Ensuite, place au championnat. Donc, des différentes régions, des différents pays, c'est-à-dire le championnat espagnol, d'Angleterre et de France. Nous parlerons aussi du tirage au sort des clubs français en Ligue des Champions et nous commençons par les championnats africains.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Messieurs, donc, nous allons parler un peu de ce match. Et surtout de cette inauguration du stade. Alors, ouais. Doyen, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder et de savoir un peu comment c'était ce stade, un stade flambant neuf, ouais. Bien sûr. Un stade qui a été inauguré ce week-end,
ouais.
En vue de l'organisation de la CAN 2023. Il s'appelle Stade Olympique des Pimbé, ouais, mais on l'appelle déjà Stadio Ado.
Ouais, mais qu'on attend qu'il meure un peu d'abord, donc il est vivant, donc un peu de calme.
Et Pimbé,
c'est le quartier, je sais pas, c'est le quartier où se trouve le stade.
Mmh.
Un beau stade déjà.
Alors un stade qui a coûté quand même 143 milliards de francs CFA, donc environ 80 millions de francs CFA côté chinois et 63 milliards côté ivoirien, et devient ainsi le plus grand stade de la Côte d'Ivoire devant le stade Oufouet Boigny, qui est le Félicien.
Le Félicien, l'ancien stade.
Alors, une capacité de 60 000, 12 places. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Les 12 places, en tout cas. Un nouveau stade qui comprend 5 niveaux.
C'est plus sur les bancs de touche.
Et une hauteur de 51,4 mètres. est totalement couvert et bâti sur une superficie totale de 61 250 m². Il comprend également deux salons présidentiels, une salle de contrôle antidopage. Et dans le cadre de la CAN, une cité olympique devrait être aménagée autour du stade sur une superficie de 287 hectares. C'est un projet avec un hôtel de 4 étoiles, un centre de recherche en médecine du sport et un auditorium de 5000 places.
Lamine, pourquoi pas 5 étoiles ?
5 étoiles, non, 4 étoiles c'est déjà pas mal. 5 étoiles, ce sera difficile après de pouvoir mettre des gens. En tout cas, est-ce que vous avez pu regarder un peu ce joyau ? C'est quelque chose de magnifique. Donc aujourd'hui, ouais. On peut dire, sans risque de se tromper, que la Côte d'Ivoire a quand même trois grands stades.
Oui.
Il s'agit donc de ce stade Epimbé, de Félicia, le stade Oufet-Boigny, ouais. Et le stade Champrou, qui est légèrement plus bas au niveau des infrastructures.
Oui, mais on n'a pas besoin d'un stade comme le Maracana pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on peut dire que, passablement, que la Côte d'Ivoire est prête.
Il faut encore d'autres stades, hein, parce que le président a dit qu'il faudrait il faut d'autres. Parce que le cahier des charges de la Confédération africaine de football demande au moins, six stades.
Oui, mais Bouaké a un stade déjà, non ?
Mais quelle est la superficie de... On parle de stade aux normes.
Oui, mais on peut remettre... remettre le stade de Bouaké aux normes, c'est tout. Donc Bouaké a un stade, donc on peut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment plus ou moins prête, ou bien va être prête pour la CAN.
Hakim.
Oui, ben, Lamine, c'est l'inauguration de ce nouveau stade olympique d'Epimbé, comme l'a dit Woody, donc effectivement au nom de ce grand quartier donc de la Côte d'Ivoire. Ça reste avant tout, je crois, le fruit d'une coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et un pays qui est la Chine. La Chine, au niveau international, sont très présents dans la construction effectivement d'infrastructures sportives, d'infrastructures hôtelières. Et il me semble que le président Ouattara, donc, avec Coach Lamine, est à cœur d'effectuer d'être présent lors de cette inauguration en présence effectivement de l'ambassadeur de Chine pour pouvoir justement montrer que tout le travail, tout le fruit de son boulot en tant que président, le président ivoirien Alassane Ouattara, donc porte ses fruits grâce notamment à cette coopération qui, en toute somme logique, Coach Lamine, reste réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine maintenant. Allons savoir effectivement d'abord. Concentrons-nous peut-être aussi sur ce que nous avons dit dans les précédentes émissions et dont nous avons débattu à propos notamment de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Attendons de voir effectivement un petit peu les actions qui vont être proposées en attendant d'avoir un président, parce que pour le moment, il faut le rappeler quand même à nos auditeurs et nos auditrices, c'est que la Côte d'Ivoire attend un président ou une présidente de fédération de foot au sein effectivement de son de son football.
En tout cas, celui qui a représenté la fédération, c'est bien oui. Sori Diabaté, hein, par rapport à la visite du président et à l'inauguration de ce joyau.
Après, Coach Lamine, concernant effectivement cette inauguration, et vous avez raison de le souligner, je pense que c'est une bonne chose pour le pays. C'est effectivement un signe fort pour la Côte d'Ivoire de dire que nous avons des installations sportives de taille qui peuvent permettre effectivement d'accueillir, en l'occurrence celui-ci c'est environ 60 000 places. Vous l'avez dit, Coach Lamine, pour un coût global, les travaux de construction ont été élevés à 67,5 milliards de francs CFA, ce qui est quand même énorme. Et en sachant que les travaux avaient commencé, Coach Lamine, en décembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un bon coup pour la Côte d'Ivoire, un bon coup pour montrer aussi que le football ivoirien est présent, le sport ivoirien est présent sur la scène internationale, sur la scène continentale. Et ça, c'est un signe fort pour la Côte d'Ivoire et notamment pour les prochaines échéances au niveau international concernant le football, mais notamment aussi tous les sports collectifs.
Alors, 0155 07 58 00, rejoignez-nous pour nous dire ce que vous avez pensé un peu de ce stade, un stade qui est réellement un véritable joyau. Ouais. Mais au-delà de ça, mon cher doyen, il faudrait quand même voir ce que, sur ce match, parce qu'il y a eu un premier match depuis l'après-Covid, pour savoir un peu ce match, est-ce que c'était un match dont on s'attendait, même si c'était un derby, est-ce que c'est un match qui a permis un peu de voir la situation du football ivoirien entre l'ASEC d'Abidjan et l'Africa Club d'Abidjan?
Oui, mais c'est un match assez symbolique. Hein. Déjà, voir ces deux clubs-là pour inaugurer un stade flambant neuf, un joyau, il faut ces deux clubs-là. Pour moi, quand je parle de club de football ivoirien, je pense toujours à ces deux clubs, sans oublier les autres. Hein. Il y a le stade d'Abidjan, le Stella Club d'Ayam et compagnie. Mais inaugurer un grand stade en Côte d'Ivoire avec ce match, c'était fantastique. Moi, j'avais pas regardé pour voir le score de ce match, mais c'est un symbole.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de monde, beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un respect des distanciations sociales.
Je vous l'ai dit.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce stade était... je ne dis pas qu'il y a eu 60 000 personnes, mais
je vous l'ai dit, moi.
Il y a eu beaucoup de monde.
Oui, mais on ne peut pas faire... C'est pour ça qu'en Afrique, il faut faire attention. C'est-à-dire que vous organisez ou vous organisez pas. Parce que s'il y a un spectacle de football quelque part en Afrique, vous ne pouvez jamais essayer de restreindre les choses. Ça va être très, très difficile. C'est-à-dire que quand le Cameroun avait refusé net de et l'autre fois, quand la CAF lui a proposé de recevoir un match, ils ont refusé. Parce qu'on ne peut pas essayer, parce que c'est très difficile, parce que c'est le continent du football. Donc c'est très compliqué de gérer ce genre d'événements. En ce moment.
Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va passer une page de pub, on revient tout de suite et on va décortiquer un peu ce match par rapport à l'ASEC d'Abidjan et l'Africa d'Abidjan.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur la radio africaine, bien sûr, Paris 107.5, Melun 92.3, Mantes-la-Jolie 87.6 et Abidjan 91.1, bien sûr, en DAB+, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, appelez-nous 33 7 66 19 77 69 sur WhatsApp et puis le standard, bien sûr, 01 55 07 58 00 avec le doyen Willy Dorkono, avec Hakim Djelouat et avec, bien sûr, Christian Chango, bonsoir.
Salut coach, bonsoir Willy.
Bonsoir Chris.
Bis à Hélène à la réalisation. Coucou à tous les auditeurs.
Alors maintenant, messieurs, nous allons juste avoir 5 minutes pour parler donc, de ce match ASEC d'Abidjan, ouais. Africa. Un match que j'ai trouvé quand même réellement assez heurté, ouais. Pour un début de saison. C'était quand même étonnant. L'Africa avait... un mois d'entraînement dans les jambes, c'est pourquoi à la limite, ils étaient un peu, dirais-je, entre guillemets, brutaux, alors qu'on a vu une équipe de l'ASEC d'Abidjan qui était tout à fait prête, avec vraiment une possession de balle exceptionnelle, et surtout un jeu vraiment alléchant et très plaisant.
Oui, mais tu as bien vu, parce que entre les deux clubs, le club le plus structuré, le plus prêt, c'est bien sûr la SEC. Donc il y a beaucoup les Aiglons sont vraiment en mode ils sont en train de tout refaire, on est au courant, donc on doit leur, il y a une situation il y a circonstances atténuantes pour eux.
Oui, malgré un 4 matchs amicaux, ils n'ont pas démontré. D'ailleurs, ils ont perdu 2-0 hein, face à l'équipe de la SEC d'Abidjan, qui a vraiment donné une bonne impression, très sincèrement, avec une bonne circulation de balles. Hakim et Christian Chango, vous avez eu le temps de regarder ce match?
Oui, le coach Lamine, la SEC Mimosa. Alors en fait, il faut quand même toujours le souligner, et c'est important de le dire. Ça reste effectivement une grosse affiche. ASEC Mimosa contre l'Africa Sport d'Abidjan, c'est des matchs que l'on connaît, que l'on a connus auparavant et que l'on reverra encore effectivement dans le futur. Et c'est un match effectivement qui était intéressant. L'ASEC Mimosa, même s'ils ont battu l'Africa Sport, ça c'est resté un match assez serré, coach Lamine, en ayant vu effectivement une mi-temps de cette rencontre. Je trouve que l'ASEC Mimosa s'est plutôt bien débrouillé défensivement. D'abord, offensivement ensuite, ils ont remporté leur match 2-0. Maintenant, voilà, ça reste effectivement une rencontre amicale, mais c'est toujours, euh, C'est toujours bien d'avoir des rencontres comme ça pour pouvoir se préparer pour la suite de la compétition. Surtout, coach Lamine, devant autant de spectateurs qui étaient présents, même si, effectivement, comme vous avez dit, il est important de souligner qu'il est, qu'il faut toujours faire attention avec la distanciation et ça.
Christian ?
Oui, coach, sur cette rencontre, content que le football reprenne du côté de la Côte d'Ivoire. C'est surtout ça le plus important avec ce nouveau stade, le stade olympique, enfin sur pied. Donc, c'était important qu'il y ait une grosse affiche pour cette fête et pour cette inauguration. Après, en soi, sur la rencontre, on ne s'attendait pas non plus à un niveau de jeu exceptionnel. Tu l'as précisé, ça faisait longtemps que les équipes n'avaient pas joué. Il y a eu la préparation, donc différents matchs amicaux, donc le pic de forme, évidemment qu'il n'allait pas être là dès maintenant, et puis le match, c'était un derby, donc les rivaux qui se sont affrontés, en soi, sur le jeu, il n'y a rien de transcendant à retirer de cette rencontre, juste que la SEC était quand même au-dessus de son rival, l'Africa Sport d'Abidjan.
Voilà donc pour cette première tranche, on a vu, un mot à ajouter encore.
Non, moi c'est le côté symbolique de la rencontre qui m'intéresse.
Qui était plus importante.
Oui, moi de retrouver ces deux clubs là, ça m'a déjà de savoir que ces deux clubs qui allaient
inaugurer le
stade, déjà pour moi c'était suffisant.
Il fallait aussi au-delà de la symbolique, voir un peu quel était le niveau du football ivoirien avec tout ce qui s'est passé.
Oui.
Voir un peu si ça tiendra la route.
Ça va tenir la route ou pas. Je vous l'ai toujours dit, ça va tenir la route simplement parce que le football existe en Côte d'Ivoire et reste en Côte d'Ivoire. Donc c'est la gestion de ce football qui a des problèmes. Donc si c'est bien géré, il n'y a aucun problème.
Ah, et puis coach Lamine, le football ivoirien avait besoin de ce match amical, avait besoin d'une rencontre comme celle-ci.
En tout cas, le public
dans un stade.
Besoin. Hein.
Oui, et puis c'est effectivement une affiche, comme on l'a dit tout à l'heure, qui existera toujours, un peu comme au bon vieux temps, c'est-à-dire, oui. Ou comme des matchs comme entre Paris, Marseille, Barça, Real, etc. Ouais. La SEC, effectivement, avec l'Africa, ça reste effectivement une rencontre qui est populaire, ça reste une rencontre qui est importante pour le public et pour les fans de football ivoirien.
Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu tellement de monde et puis... Une politique de communication par le président de la République, parce que tout le monde avait presque une pancarte où...
Je m'attendais à tout ça, donc...
un peu de récupération, bien sûr. Et c'est lui-même qui a donné le coup d'envoi. Alors, donc, c'est pour dire que... qui vivra, verra. C'est bientôt les présidentielles en Côte d'Ivoire. On verra ce que ça va donner. Est-ce que ça, c'est un coup médiatique ou pas du tout. En tout cas, on va continuer donc sur Tout Foot, tous les lundis, bien sûr. Il est 20h32 et nous allons attaquer le football comorien.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Alors, ce soir, nous allons recevoir M. Bouana. M. Bouana est un journaliste, blogueur, qui a un site internet, coach Lamine, exactement.
Voilà. Bouana Oussamdine, originaire des Comores et qui est fan de football, mais surtout qui s'intéresse de très très près au football local, mais notamment au football national des Comores. Mmh. Et il a créé ce site internet avec d'autres collaborateurs pour pouvoir justement informer coach Lamine et mettre la lumière sur le football comorien à travers tout le continent, mais notamment aussi à travers le monde entier, parce qu'on sait que les Comoriens, eh ben, on peut les trouver partout dans le monde, un peu comme tous les Africains.
Surtout à Marseille.
Beaucoup à Marseille, mais je dirais partout dans le monde. Et effectivement, c'est une bonne chose parce qu'en ayant visité un petit peu son site internet et son site d'information et d'actualité sportive, c'est intéressant, Lamine, parce qu'on a autant le football féminin qui est traité et qui est décortiqué que le football comorien, donc masculin. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il a beaucoup d'informations croustillantes à nous partager.
Alors justement, M. Bouana, nous on était un peu inquiets parce qu'à un moment donné, on a vu circuler sur les réseaux sociaux que le football comorien risquait de déclarer forfait pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. C'est bien ça, je pense, avec les éliminatoires. Qu'en est-il au juste ? Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir
Boyna.
C'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
Le plaisir est partagé.
Bienvenue.
En fait, c'est pour les matchs amicaux. Il y avait une rumeur comme quoi, par exemple, on n'allait pas. Il y avait des risques, pas des rumeurs, mais des risques qu'on n'allait pas faire des matchs amicaux sur le mois d'octobre, mais heureusement, ça s'est réglé au dernier moment, comme d'habitude. Mais malheureusement, on a encore ce même problème depuis des années jusqu'à maintenant, c'est que à chaque match, que ce soit des matchs amicaux ou des matchs de rencontres officielles, on a toujours le souci de là où on va trouver les financements pour les rencontres. Mmh. Et pour la petite remarque, c'est qu'en 2013, si les gens se rappellent bien, on n'a pas pris part aux éliminatoires de la CAN 2013, là, qui était rapprochée de la CAN 2012, parce qu'on avait encore un problème de financement. Mmh. Donc, cela montre que dans notre pays, par exemple, ou dans notre fédération, il n'y a pas une structure ou un budget qui définit l'équipe nationale dans toute l'année. Par exemple, cette année, on a un budget pour combien de rencontres, que ce soit des rencontres officielles ou des matchs amicaux. Donc, à chaque rencontre, on passe tout notre temps, par exemple, à chercher des financements, qu'à préparer nos matchs pour commander. En fait.
M'aviez précisé, Boyna, la semaine dernière, quand on a discuté ensemble, notamment à propos du football comorien, m'aviez précisé qu'il y avait... est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, que par le passé, il n'y avait pas, en fait, d'accord entre le gouvernement, je veux dire le ministère des Sports, et la Fédération comorienne de football? Est-ce qu'il y a toujours cette difficulté de communication entre les deux entités?
Ouais, ça a toujours été le cas, en fait. Il n'y a pas une structure ou une relation bien définie. C'est juste qu'on a des fédérations, parce que c'est la particularité des Comores, peut-être je pense même en Afrique, c'est que le foot, c'est le sport où il y a le plus de financement dans le pays, en fait. Mmh. Donc, on donne juste des financements comme ça, mais il n'y a pas des prérequis, des normes qu'on respecte, que telle part, par exemple, la fédération va prendre telle part de son budget, le ministère va prendre telle part de son budget. C'est que juste on va comme ça, la fédération fonctionne juste aux subventions de la FIFA et à l'argent de l'État, mais sans contrôle. Il n'y a pas un contrôle déjà établi que chaque partie a telle part dans telle compétition ou dans telle activité. Mmh. C'est, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore réglé ce problème.
Moi, je voudrais revenir par rapport aux matchs amicaux dont vous aviez parlé. Donc, en principe, d'après ce que j'ai lu, il devait y avoir des matchs amicaux là, par exemple, le 8 octobre. Ouais. Ce serait un match amical contre les U20?
Ouais, c'est ça ce qui est un peu problématique.
C'est incroyable, ça. Alors que les gens ont des matchs amicaux internationaux, vous jouez contre les U20.
Ouais, en fait, c'est ça ce que les gens ils regrettent, en fait, parce que normalement, on a deux. C'était prévu d'avoir deux matchs amicaux. C'était pas contre la Libye, ça c'est déjà confirmé, c'est le 11 octobre, ça va se passer à Tunis. Et il devait encore avoir d'autres matchs. On voulait jouer contre la Centrafrique, mais avec les soucis financiers qu'on avait, on a pris beaucoup de temps à confirmer la rencontre, donc on n'a pas pu établir ce match avec la Centrafrique. Et le dernier qui nous restait, c'était avec la Tunisie. Mais c'est que la fédération, quand elle a annoncé la nouvelle comme étant un match amical avec la Tunisie. Nous, on a compris que c'était un match amical avec l'équipe A de Tunisie.
C'est les U20 de Tunisie.
Voilà. Et or, on sait que la Tunisie joue le 9 contre le Soudan.
Faut pas rigoler.
Exactement.
Et c'est après qu'on a su, via des médias tunisiens, et puis après la fédération tunisienne, qu'ils ont confirmé que c'est avec les U20. Donc, en quelque sorte, c'est pas vraiment un match amical, mais c'est un match de...
Et comment, Boyna, comment le sélectionneur gère justement cette situation? On sait qu'il y a des nouveaux visages, en fait, comme le Niortais Yacine Bourane de 22 ans qui va rejoindre le groupe. C'est un groupe assez jeune, sans faire défaut, effectivement, à la sélection tunisienne des U20. Il va y avoir... quelle a été la stratégie du sélectionneur Amir Abdou des Comores pour pouvoir, justement, rassembler une équipe pour affronter les U20 tunisiens?
Pour ce match contre les U20, je ne l'ai pas encore eu pour savoir la stratégie, mais c'est que Amir Abdou, il est dans une stratégie de rajeunir l'équipe, parce qu'il a un groupe qui travaille depuis 6 ans déjà, parce qu'Amir Abdou, il est en tête depuis 2014, il a sur le même groupe qu'il travaille avec, c'est ce qui montre par exemple que maintenant le groupe, il est beaucoup plus expérimenté, parce qu'ils sont tous ensemble depuis des années, ils travaillent ensemble. Donc, dans son projet-là, il essaie à chaque année, par exemple, de rajeunir un peu le groupe, parce qu'il y a certains qui commencent à avoir la trentaine et tout. Donc, à chaque rassemblement, il essaie d'apporter un air frais et de la jeunesse dans le groupe. Et c'est ce qu'il a fait avec la liste qu'il a sortie pour les dates FIFA de ce mois d'octobre. Il a appelé deux jeunes deux jeunes qui évoluent en Ligue 2. L'un, c'est Yacine Boran de Niort. Et l'autre, c'est Faïs Matar de la Ajaccio. C'est deux jeunes qui ont un profil assez intéressant parce qu'ils viennent de débuter sur le monde, dans le monde professionnel. Yacine, lui, il a un peu de l'expérience. Mais c'est des jeunes qui peuvent apporter un plus dans leur poste respectif, en fait. Donc, c'est ça ce qu'il essaie de faire maintenant, essayer de rajeunir cette équipe. Peut-être contre les U20, il ne va pas miser pour. Il ne va pas utiliser un groupe ou un 11 rentrant, par exemple, qui est beaucoup plus âgé comme ça. Peut-être qu'il va essayer de voir avec des jeunes qui sont dans son groupe, parce que la moyenne d'âge, là, maintenant, il est, je pense, à 26 ans, comme ça.
Ouais.
Tu peux trouver des jeunes qui peuvent facilement jouer ce petit match.
Alors, mais justement, quel est aujourd'hui le niveau des Comores sur le plan international?
Sur le plan international, il y a maintenant deux niveaux que je peux peut-être parler. C'est le niveau des joueurs dans leur club respectif. Parce que maintenant, avant, on jouait, l'équipe nationale était composée de joueurs de National, Ligue 2, parfois on avait même des joueurs de DH qui jouaient ici en France avec des joueurs de DH.
Vers Marseille.
Voilà.
Ouais, autour de Marseille.
L'Atlético Marseille, ouais.
Voilà, ouais, autour de Marseille. Mais maintenant, depuis je pense 2016, l'équipe s'est progressivement professionnalisée. On a maintenant des joueurs en club qui jouent dans des niveaux intéressants. Il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1, Ligue 2 et d'autres championnats de première division de quelques pays européens. Je pense par exemple à
Ali Hamada qui évolue en D1 en Norvège.
Norvège, voilà. Mais surtout par exemple pour notre joueur qu'on peut qualifier par exemple maintenant notre meneur de jeu, c'est le joueur le plus emblématique de la sélection maintenant, c'est Elfardo Ben Mohamed qui joue avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Mm-hmm. Il joue la Ligue des Champions. Il y a aussi Fouad Bachiro qui vient de rejoindre Nottingham Forest, qui joue en Suède avec Malmö. Il joue aussi la Ligue des Champions. Donc on a maintenant, individuellement, les joueurs, eux, ils arrivent à jouer à un certain niveau. Puis c'est bénéfique pour la sélection. Et c'est là où je vais partir de la deuxième partie, c'est que leur expérience en club maintenant, qui joue avec des compétitions comme la Ligue des Champions, la Ligue Europa, mm-hmm. ou certains championnats européens de niveaux intéressants, ça ramène de l'expérience et une confiance dans l'équipe, d'où les résultats qu'on essaie de mettre en place ou qu'on a enregistré ces dernières années contre le Cameroun, contre le Maroc, contre d'autres nations africaines qu'on ne ouais. pensait pas qu'on allait faire ces résultats, comme par exemple le dernier match qu'on a joué contre l'Égypte à domicile, les gens ils savaient pas qu'on n'allait pas ou ils croyaient pas qu'on allait pas faire un résultat intéressant contre l'Égypte.
Il y a contre le Ghana aussi.
Voilà, contre le Ghana. Le Ghana, c'était en 2015.
Ouais.
Dans les éliminatoires de mondial. Donc, c'est en fait leur expérience en club maintenant qui progresse, qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe nationale est composée de joueurs. Soit ils jouent en première division, mm-hmm. soit en deuxième ou limite troisième division. Et maintenant, le niveau de l'équipe, comment il s'est établi ces dernières années.
Ouais. En tout cas, ça nous permet de faire un coucou à Nasreddine, qui a toujours rêvé de battre le Sénégal avec les Comores.
Donc. C'est oui, son anniversaire aussi. Bon anniversaire,
ça. Oui, c'était hier. Hein.
Ouais.
En tout cas, ce ne sera pas possible pour le moment de battre le Sénégal. Oui, Shango.
Oui, bonsoir. Je voulais te demander, du coup, les Comores donc ont fait une bonne CAN, ça s'était plutôt bien passé pour la sélection comorienne. Là, il y a des difficultés. Comment se prépare l'avenir, les prochaines échéances? La CAN a été décalée, donc ça laisse un peu de temps encore pour les Comores pour se préparer. Où est-ce qu'on en est?
Là, actuellement, les éliminatoires vont reprendre en novembre. Comme tout le monde, on va jouer contre le Kenya en double confrontation. Et vu l'état où on est actuellement dans le groupe, on est par surprise, comme le disent les gens, on est premier du groupe.
Ils ont fait nul contre le Togo. Hein.
C'est pas vrai.
Oui. Le Togo. Donc c'est une double confrontation qui est importante parce que si on arrive à emmagasiner ou à entraîner plus de points dans cette double confrontation contre le Kenya, qu'on connaît déjà bien parce qu'on a dû jouer. On a joué contre eux deux fois, je pense. On a joué déjà deux fois contre le Kenya, on se connaît bien. Si on arrive à avoir le maximum de points en novembre, là, on est presque assuré d'aller à la prochaine finale. Donc, les matchs d'octobre qu'on va jouer. Ah
bah oui, les Comores sont bien placés là.
C'est important. Ouais. Parce que ce sont des matchs de préparation que si on arrive à refaire revenir les automatismes qui étaient là avant le Covid, parce que ça, c'est important. C'est retrouver notre niveau avant le Covid. Parce qu'on a fait, déjà une année qu'on a pas joué au foot. Donc, c'est important de faire ce stage, que ce stage se passe bien. Et affronter le Kenya en novembre en toute sérénité. Donc, c'est ça qui.
Oui. Oui, mais si vous et si le Comore ne déclare pas
forfait pour cause financière.
c'est pas
en jouant avec les U20 que vous.
Il y a une chose encore qui est regrettable, surtout quand on parle par exemple des forfaits comme ça d'ordre financier. Je suis pas sûr qu'on va déclarer forfait financièrement. Là, c'est juste un souci, par exemple, d'observateurs, de journalistes ou de supporters qui disent peut-être qu'on pourrait déclarer forfait avec tout ce qui se passe au niveau financier. Mais ils vont toujours débloquer le.
Ils sont obligés. S'il vous plaît, ils sont obligés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que cette fois-ci, dans le temps, on déclarait forfait comme on veut. Cette fois-ci, si vous faites ça, il y a des sanctions automatiques.
Il y a des sanctions et ça serait compliqué.
Parce que les autorités savent très bien que les sous, vous les avez.
Non, et puis faut voir les choses positives, c'est-à-dire comme le soulignait Boyna, coach Lamine, c'est-à-dire les Comores pour le moment sont très bien classés. Alors certes, ils ont deux matchs contre le Kenya pour assurer une qualification à la prochaine CAN. Ça va pas être une partie de plaisir, ça va pas être facile, mais ils en ont les moyens. Il l'a dit, la sélection se professionnalise d'année en année. Ça, il y a du sérieux. Il y a des joueurs effectivement qui sont des joueurs titulaires indiscutables au sein de leur club, que ce soit en première division ou en deuxième division. Donc le football, j'ai l'impression que le football comorien, donc coach Lamine, a un regain de vitalité depuis quelques temps et qui peut effectivement jouer les troubles faits pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'ils arrivent à se qualifier. Et on a entendu effectivement de belles choses de la part de Boyna. Au niveau de ses analyses, au niveau des informations qu'il nous a partagées, comme par exemple pour le recrutement de jeunes joueurs comme Yacine Bourane ou le joueur là que j'ai noté, donc Faïz Matoir, qui est du côté de l'AC Ajaccio. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le football comorien. C'est une bonne chose pour le football local aussi, parce que les jeunes joueurs vont aussi quelque part s'identifier à ces joueurs-là qui sont et qui restent effectivement des exemples et des modèles pour eux.
Oui, mais Hakim, c'est une bonne chose pour le football africain en général, parce que on ne doit pas voir que les mêmes, le Cameroun, le Ghana, l'Algérie. Exactement. Et autres. On a vu le Madagascar, on a vu le Bénin. Donc, moi, je suis très content si le Comore arrive. Donc, je vous ai toujours dit qu'il y a 54 pays de football en Afrique. Il suffit d'un peu de travail, on les voit arriver devant de la scène.
Ouais,
le problème qui se pose, c'est le travail qui compte.
Tout à fait. Puis là, les deux matchs amicaux, il faut pas les négliger. C'est vrai que il y a eu un quiproquo par rapport à la sélection tunisienne A senior, mais bon, affronter une équipe U20. Enfin, moi, je suis désolé, mais on a observé avec vous, messieurs, sur le plateau, et on a analysé et commenté des matchs en Coupe d'Afrique U20 ou en Coupe du Monde U20 dans certaines analyses. Et c'est vrai qu'on a vu des sélections tirer leur épingle du jeu. Et ça peut être de belles confrontations et de belles préparations. Mais on aura surtout une confrontation intéressante, Boyna, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième match amical qui arrive bientôt, c'est contre la Libye.
La Libye, ouais, c'est la Libye le 11 octobre. Et ça, c'est le match le plus important qu'il faudrait tenir compte. C'est là où, c'est à partir de ce match, où on va dire maintenant l'équipe il est à tel niveau où ils ont récupéré, les gens ont réussi à récupérer, par exemple, un tel niveau, est-ce qu'ils sont prêts pour le Kenya? C'est à partir du match contre la Libye qu'on va peut-être pouvoir essayer de se donner une idée de l'équipe qui est actuellement. Mais avec les U20 tunisiens, bon, on va dire que c'est un match d'entraînement peut-être.
Ouais,
mais ça vous fait rire, mais le U20 tunisien, de nos jours, les U20, c'est presque les A'.
C'est presque les A', voire...
Les
U20
tunisiens, ils sont en préparation pour les prochains éliminatoires de la CAN U20, en fait.
Tout à fait, ouais. Ça reste comme le dit Willy. Ça reste comme le dit Willy, c'est-à-dire c'est les portes effectivement de la sélection A tout court. Hein. Bon, U20, on a plus une grande marche après pour rejoindre effectivement la sélection A.
Christian Jango.
Oui, coach, ça y est, on a commencé un peu à faire le tour et je suis content que notre invité ait pu répondre à ma question, puisque moi, en fait, là où je me posais la question pour les Comores, c'est que dans la phase de qualif des éliminatoires, ils étaient bien partis. Willy l'a rappelé.
Ils ont fait match nul contre le Togo.
Voilà, donc ils ont notamment
accroché. Au Togo,
ils ont gagné contre le Togo.
Ouais, mais à la maison.
Mais.
Ouais. Donc, c'est une bonne performance. Donc,
ouais, mais moi je suis pas choqué.
Non, mais attends.
Moi je suis pas choqué. Je voulais toujours répéter que on joue au football partout en Afrique.
Ouais, exactement. Merci Woody.
Faut pas non plus.
Et le Comor battra le Sénégal bientôt.
Ça c'est sur PlayStation. Ça.
On a vu le Bénin éliminer le Maroc. Hein.
Exactement.
Mais ouais, mais bon, doyen, on parle de stade de Kégué.
Oui, mais tout est possible en football.
Mais ça, tu me l'avais caché. C'est pas parce que tu m'as invité au restaurant ce week-end.
Ça s'invite au restaurant.
Au plate.
Ouais, au plate pour manger un bon poisson.
Oui, d'accord. Non, mais tu invites le coach, c'est pas Christian et moi.
On va retourner. C'est un resto 5 étoiles, comme tu le dis.
Non, mais parce qu'il savait qu'on allait inviter un Comorien pour parler de football comorien, mais il m'avait caché le résultat, tu vois. c'est pas sérieux tout ça, quoi.
Coach Lamine, on peut quand même rappeler les informations du site internet de Boina. Donc Boina, si je me trompe pas, effectivement, ton site internet c'est Comoros Football 269. Comoros Football 269, c'est un site d'actualité sportive sur le football comorien, sur le football aussi féminin aux Comores, puisqu'on a vu pas mal aussi d'articles sur le football féminin.
Alors, justement, peut-être qu'il pourrait nous les présenter. Vous êtes réellement suivi, parce que j'ai regardé un peu le site, vous êtes à 36K, non ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, 36,
je pense, ouais. Voilà, c'est pas mal. Donc, vous êtes aussi, vous suivez aussi toute l'équipe nationale. Donc, tout ce qu'on peut avoir et avoir besoin sur le football comorien, on peut se rendre sur votre site. Hein, c'est bien ça.
Ouais, il y a tout. Que ce soit au niveau local et au niveau des joueurs dans leur club ou l'équipe nationale, il y a tout à l'intérieur, il y a tout dedans.
J'ai une dernière question. Je voulais te demander si. Donc, qui suit vraiment, qui relaie tout l'actualité du football et en particulier celle des Comores. Est-ce que tu as un joueur en particulier que tu nous recommanderais, auquel il faudrait faire attention, un joueur à suivre, un des potentiels joueurs qui pourrait porter la sélection? Est-ce que tu as un joueur à mettre en avant qu'on pourrait suivre
Au niveau local ou au niveau de l'équipe nationale?
Les deux.
Au niveau des deux, peut-être que si je dois donner un nom, ça sera un joueur local qui est régulièrement appelé dans l'équipe nationale. C'est Ibrahim Youssouf. Il joue à Volcan Club, au Comores, et qu'il est, je pense, le seul, l'un des deux qui sont régulièrement appelés en équipe nationale et qui répondent vraiment aux attentes du sélectionneur Amirabdou.
Attaquant, hein, Ibrahim Youssouf.
Ouais, il a un surnom, on l'appelle Djoudja. Peut-être que vous l'avez connu avec ça, mais c'est le joueur où il faut peut-être mettre la lumière dedans.
Okay. Merci beaucoup.
Merci, Boina. Merci d'être venu sur la radio africaine. En tout cas, c'est merci avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, vous venez quand
merci
vous voulez. Il n'y a pas de souci.
Ou samedi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Sur la radio africaine, Paris 107.5, Africa Radio, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5, DAB+, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg. Venez nous rejoindre pour décortiquer l'actualité du football africain. On l'a fait, hein, sur l'Afrique, c'est fini.
C'est fini.
Terminé. Vous êtes en retard, c'est tant pis pour vous. Maintenant, nous partons sur les championnats européens avec la Première Ligue. Messieurs Christian Chango, les résultats, et puis nous enchaînerons avec les commentaires.
Exactement, coach. Quatrième journée de Première Ligue, Chelsea, Crystal Palace, 4-0 pour Chelsea. Everton, Brighton, 4-2 pour Everton. Très beau match, nul, un but partout entre Leeds de Marcelo Bielsa et Manchester City, l'équipe de Willy et de son coach préféré, Guardiola. Newcastle, Burnley, 3-1 pour Newcastle. Leicester, West Ham, 3-0 pour West Ham. Victoire 2-0 de Southampton face à West Brom. Wolverhampton a battu Fulham 1-0. Arsenal a battu Sheffield 2-1. Et les deux gros résultats du week-end, United, Tottenham, 6-1 pour Tottenham. Aston Villa, Liverpool, 7 buts à 2 pour Aston Villa.
Alors, avant de décortiquer tout cela, les 7, les 6, etc., oui. Je voudrais qu'on revienne. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le football anglais. Hein.
Mais pourquoi ?
Non, mais attendez.
Pourquoi on aime ce football ? C'est parce que. Tout le monde aime le football simplement parce que le petit peut battre le grand.
Alors, mais bon, d'accord, revenons.
La meilleure Liga del Mundo, première Liga.
C'est ça. Alors, prenons les matchs un par un. On a ciblé quand même certains clubs. Ouais. Parlons de Chelsea d'abord. Chelsea contre Crystal Palace. 4 buts à 0 et dans les deux équipes il y avait des Africains. Exactement. Il y avait d'un côté bien sûr Jordan Ayew, il y avait Zaha, de l'autre côté il y avait
Kouyaté aussi hein, du côté
Kouyaté,
de
Kouyaté, oui, bien sûr.
Et Mendy le goal.
Et Mendy. Et puis justement on va parler de Mendy. Pourquoi Mendy? Parce qu'il est sénégalais. Ça d'abord. Et puis monsieur, c'est moi
parce que c'est un grand joueur.
C'est moi qui commande.
C'est un grand joueur, il est bon.
Non, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. On parle de Mendy.
Pas objectif, rien.
Ouais, mais on parle de lui pas en tant que sénégalais, mais en tant que joueur de football.
Non, mais bon, en tant que sénégalais. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand même, la Chelsea, avant l'arrivée de Mendy, avait encaissé au moins 7 buts pour un gardien qui, à la limite, avait coûté plus de 50 millions.
82 millions.
Mais c'est pour ça que je vais dire.
Combien
82 millions.
82 millions, Caballero.
Le gardien espagnol qui a été mis sur le banc de touche.
Exactement. Alors qu'aujourd'hui, il est arrivé et ce gars-là, on se retrouve dans une situation où il a fait 2 matchs et pas de but.
Faites attention aussi, parce que la qualité d'un joueur ne dépend pas du montant de son transfert. Sérieux. Mais ça n'a rien à voir. Donc, sinon, on va mettre beaucoup de sous sur moi avec mon genou, je ne fais rien. Donc, faites attention, ça n'a rien à voir. Mais...
Non, mais si, il y a une valeur. Quand même, quelqu'un qui coûte 80 millions, devrait être le gardien de but de Chelsea, et que là, il est.
J'ai vu des joueurs qui évoluent en Premier League et ma grand-mère est mieux. Donc, ma grand-mère est mieux que des joueurs. J'ai vu des joueurs qui jouent en Premier League. Ma grand-mère est mieux que ces joueurs-là. Donc, ça ne veut rien dire le prix d'un joueur.
En tout cas, coach, sur cette rencontre, et je vous en parlais la semaine dernière, hein, et c'était les mots de Frank Lampard, il voulait absolument un gardien. Et on se demandait, enfin, on en parlait, on faisait déjà des estimations, on se disait, et je vous le disais, qu'ils l'ont pris, il l'a payé, il le voulait absolument, c'est pour le mettre titulaire. Et ça n'a pas loupé. Premier match de championnat pour lui. Il l'a mis titulaire. Au final, pour Mendy, il a eu quelques jours, une semaine même pas, pour se préparer, pour commencer à connaître un peu ses défenseurs, l'équipe. Et on l'a vu tout de suite dans le bain. Et je regardais avec attention ses premières interventions, les dégagements, pour voir s'il était en confiance ou pas, puisque le championnat anglais, c'est quand même réputé pour être plus physique. Les gardiens sont moins protégés. Donc, au contact, ça change du championnat de France. Au niveau du gardien, il est moins protégé. Et il a bien répondu... que ce soit dans les relances, dans le jeu au pied. Je l'ai trouvé très serein et c'était un bon match pour une première. En plus, il fait un clean sheet, hein, comme on dit en Angleterre. Mm-hmm. Pas de but encaissé, donc c'est bon pour la confiance, c'est bon pour sa confiance à lui et ça laisse entrevoir un très beau futur pour lui. Après, il y a la Ligue des Champions qui va arriver, donc c'est un bon premier match et il faut surtout que ça continue pour lui.
Alors, une chose est sûre, c'est que quand même, on était inquiet pour Chelsea parce que tout simplement... Ouais. Chelsea avait fait un recrutement VIP. Ouais. Et aujourd'hui, Doyen, on a l'impression, Christian Chango et Hakim, on a l'impression, d'ailleurs, je pensais qu'il était là, mais il n'est pas encore arrivé. On a eu l'impression que la mayonnaise au niveau de Chelsea est en train de prendre. Parce que battre Crystal Palace 4 buts à 0, ça veut dire quelque part que, ça commence à sentir bon.
Oui, le football est un jeu hyper collectif parce qu'ils sont 11. Donc, il faut que la mayonnaise, comme tu le dis, prenne. On le voit, ils ont des grands joueurs qui sont arrivés. Et il y a un goal qui faisait quelques bourdes parce que le goal, c'est le dernier rempart. Donc, si on joue bien et que le goal n'est pas rassurant, et l'équipe est déséquilibrée complètement.
Ah, parce que l'équipe peut être mauvaise, mais si le gardien ne prend pas de but, vous êtes toujours en vie. Donc effectivement, c'est vrai que pour Chelsea, c'était important de corriger ce défaut-là.
On a Adama Sourabié qui est dans la meilleure ligue du monde.
El Mejor.
El Mejor. On lui fait un coucou, il reste avec nous parce qu'on n'a pas encore attaqué, bien sûr, le football espagnol, mais il peut intervenir quand il veut concernant.
Hola, Damas Urabi.
Quand il veut.
Hola, hermano, ¿cómo va usted?
Muy bien, muy bien. Aquí en la Liga Española, quinto jornada, mejor fútbol.
Gracias, hermano.
No, viva Real. Now we're trying to. We are talking about the Champions League.
Best, best yeah. in the world.
Okay. Right. Thank you. You have to wait, please.
En tout cas, juste okay. pour Chelsea, on va rappeler hein, premier match, ils perdent 2-0 face à Liverpool. Deuxième match, 3 buts partout face à West Ham. Donc là, ils se sont repris, comme tu l'as dit, hein, 4-0, c'était important. Et maintenant, à voir si la mayonnaise va prendre, comme tu dis, si les joueurs vont s'entendre de mieux en mieux. Il y a eu un beau recrutement de Chelsea. Maintenant, ils ont renouvelé un peu les différentes lignes. Et maintenant, il faut que la marche continue. Pour Lampard, hein, c'est sa deuxième saison. L'an dernier, il n'a pas eu de recrutement. Chelsea était interdit de recrutement. Là, cette année, ils ont envoyé, ils ont dynamité le mercato. Donc, à eux de confirmer, mais on a vu quand même du mieux par rapport aux autres matchs.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une équipe de Chelsea qui a fait plaisir avec et surtout, ce sont certaines recrues qui ont plafonné, qui ont marqué des buts.
Hein, ouais. Ah oui,
voilà, c'est clair, hein, net. Autre match qui nous a marqué ce week-end, c'est Everton-Brighton. Everton qui est sur une marche en avant ouais. et qui, à mon avis, ne doit pas rater le podium.
Ouais, mais ils ont un bon coach aussi. Donc, cette équipe-là, même dans le jeu, j'aime bien leur jeu. Ils jouent en équipe, eux. Il n'y a pas de vedette là-bas, mais ça marche bien pour eux. Donc, je suis très, très content pour eux et surtout pour le coach.
Mmh. On en parlait, coach. Après, je te passe le ballon, Hakim. On en parlait juste pendant la pub de ce match-là, justement. Everton-Brighton, 4-2 pour Everton. Deux passes de nos Africains, Alex Iwobi, qui évolue du côté d'Everton, qui a fait une passe décisive pour James Rodriguez, et Doucouré aussi, qui a fait un gros match et qui lui aussi a fait une passe décisive pour James. Everton, hein, ils sont dans la bonne lancée, ils sont entraînés par un grand coach, c'est vrai. Et Willy, tu dis qu'il n'y a pas de star dans cette équipe, mais pour moi, il y en a une. Hein,
oui, mais James Rodriguez,
voilà, l'international colombien. Voilà.
C'est pour ça que je dis que les joueurs, il faut les voir par rapport à leur qualité intrinsèque, le talent qu'ils ont.
Exactement.
Parce que les gens ont commencé par critiquer ce joueur au niveau du Real, mais c'est un très bon joueur. Pour moi, quand j'étais au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014
oui.
c'était le meilleur joueur de la compétition. Ils ont fait un coucou à Messi, mais Messi n'était pas du tout le meilleur joueur de cette compétition.
Mais c'est peut-être le fait d'être blessé un peu tout
c'est souvent, ça, et,
c'est
et,
ça qui pose
et,
problème.
Et justement, là, pour lui, ça, on touche du bois, que ça continue. Il n'a pas eu trop de chance du côté du Real avec Zidane, alors qu'avec Carlo Ancelotti, ça s'était bien passé. Et là, il revit sous les couleurs de d'Everton. Et donc, il faut qu'il continue. Et puis, on voit qu'il sublime hein, les joueurs à côté de lui. Iwobi, Doucouré, toute l'équipe était au diapason. Donc, c'était vraiment plaisant à voir. Et Everton va être une des équipes à suivre cette saison.
Alors,
et juste de l'autre côté, du côté de Brighton, il y a Bissouma, qui a marqué un but. Je ne sais pas si vous l'avez vu à
ouais,
la
tout
toute
à
fin
fait.
Du match.
Ouais.
Contrôle de la poitrine, demi-volée, magnifique. Donc un Africain encore qui a brillé aussi.
L'ancien Lillois. Ouais.
Un Africain qui est formé en Afrique, il faut toujours préciser ça.
Ah mais ça, ben, ouais. Tu es là pour ça, Willy, tu es là pour le rappeler, c'est très important.
Il
ouais.
faut quand même rappeler, coach Lamine, que cette équipe d'Everton, elle est accompagnée par Carlo Ancelotti. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a effectivement une bonne connaissance du football anglais. Lui qui était passé par Chelsea auparavant et d'autres pays également, mais ça reste aussi un fin technicien,
ouais.
un fin tacticien et je pense que accompagner effectivement des joueurs comme l'a dit Christian, Willy, Doucouré ou d'autres encore comme James Rodriguez, voir James Rodriguez déjà à ce niveau-là, c'est toujours effectivement un plaisir parce qu'il a eu une petite baisse pendant quelques saisons, il n'a pas eu beaucoup de chance non plus, il y a eu des blessures. Et là, effectivement, il faut le rappeler que Everton reste sur un quatrième succès en autant de journées. Et ça, je pense que c'est la recette d'un coach, mais aussi celle d'un groupe et d'un collectif qui vit bien ensemble.
Ok. Autre match, Leeds face à Manchester City. C'est ce match que tout le monde attendait.
Ouais. Un but partout.
Mais finalement, oui, un but partout. Mais finalement, J'ai été défensivement assez déçu de l'équipe de Leeds. pas offensivement, mais défensivement. Parce que défensivement, sur le but de Manchester United, de Manchester City. On a vu quand même une défense qui regarde les autres jouer. Et c'est la raison pour laquelle, et je m'explique maintenant, la raison pour laquelle, sur 3 matchs, ouais, combien de buts a encaissé l'équipe à El Loco ?
Oui, mais tu as oublié que c'est une équipe qui a envie de gagner. Ce n'est pas une équipe qui n'a pas envie de prendre des buts. C'est une équipe qui a envie de marquer des buts.
Mais bon,
et s'ils marquent 5, ils prennent 3, ouais, ils ont gagné le match.
Ouais, mais, oui, mais quand même, je veux dire, là
c'est une philosophie dont
je parle. C'est une philosophie, mais ouais, cette philosophie-là, c'est pas tout le temps, elle n'est pas tout le temps efficace. Hein.
Ils ont pris 5 buts en 3 rencontres.
5 buts en 3 rencontres, vous vous rendez compte?
Oui, mais ils en ont marqué combien?
Ils en ont marqué 5.
Ouais.
Ils ont deux victoires, un match nul.
Ouais. Donc c'est pas négatif.
Et une défaite.
En championnat, non, ils ont eu un match nul. Deux victoires, un match nul.
Ouais, mais...
Une défaite contre
Liverpool.
Liverpool.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est... Effectivement, ça joue, mais jusqu'à où ira cette équipe des locaux? Parce que physiquement, ça doit se ressentir sur les joueurs, parce que ça court un peu partout comme des lapins. Donc finalement, bon, je ne sais pas, à la fin...
On n'est pas à Marseille où les joueurs ne commençaient pas à pleurer entre-temps.
Non, mais
ici, on a en Angleterre.
Doyen, ça se voit. L'équipe, elle attaque, elle défend, elle met la pression,
oui, c'est ça, le sport,
sur le possesseur du ballon.
C'est ça, le sport.
Hein. Oui, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer. Ça se comprend. Comme on dit, Adrien Sorabia en espagnol, es un loco.
Locos, comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique.
On l'a peut-être perdu, il va revenir.
Ah ouais, son téléphone, son micro est devenu fou.
Oui, ben. Manchester United, Tottenham. 6 buts à 1 pour Tottenham. Ça a fait le plaisir de notre ami le Special One.
6 buts à 1, oui, pour Tottenham, le match qui était bien parti pour Manchester. Et puis le carton rouge d'Anthony Martial aux alentours de la 25e minute a totalement modifié la rencontre.
Mais là, Tottenham menait 2 buts à 1 quand même. Hein.
Exact, Tottenham menait 2 buts à 1. Mais une fois que le carton rouge a été pris, Manchester a été complètement dépassé. Et puis ça rejoint le débat qu'on avait la semaine dernière sur United. On se posait des questions
sur la défense.
Et Patrice Evra, l'ancien grand joueur de United et le défenseur et capitaine de cette équipe, en parlait ce week-end chez nos confrères anglais.
Ouais.
Il disait, mais toute l'équipe est à revoir. Quand on a une défense pareille, même De Gea, le gardien espagnol qui faisait des miracles, ne peut rien faire. Et c'était compliqué pour Manchester. Ils ont été dépassés dans tous les compartiments. Eric Bailly, un de nos deux Africains présents sur la pelouse, était complètement dépassé, comme toute la défense de United. Alors que de l'autre côté... Tout le collectif de Tottenham était en place, avec notamment Serge Aurier sur le côté droit, autre international ivoirien qui a fait des misères et notamment une passe décisive.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, comment on peut expliquer sur le restart, cette équipe-là est partie avec presque 9 victoires sur 9 matchs, et puis tout d'un coup, elle s'est plantée, parce que est-ce qu'elle, regardez sur les erreurs défensives, on veut ressortir le ballon comme à la... je ne sais pas, comme Barcelone ou je ne sais pas quoi. On a eu l'impression que maintenant, les gardiens de but sont devenus des numéros 10. On veut ressortir le ballon.
C'est fini le kick and rush. Hein,
non, mais il ne faut pas déconner. L'Angleterre, on sait que c'est le kick and rush. Je veux dire que quand il y a le danger, on tire la balle jusqu'à ce qu'elle sorte du stade. C'est mieux.
Oui, mais ce qu'ils ont fait dans la défense, là, on se croit dans une cour de récréation. Ce n'était pas beau à voir. Et je ne sais pas ce qu'ils faisaient jusqu'à que le gardien prenne ce but-là. Ils vont des têtes à répétition, on ne savait pas ce qu'ils veulent faire avec la balle et tout. Ce Manchester-là, il n'y a pas que la défense, hein, c'est toute l'équipe qui est à revoir. Ouais, des noms, c'est vrai. Sur le papier, ils gagnent tout, mais sur le terrain, vraiment, ce n'est pas beau à voir.
Manchester, on va y revenir sur le calendrier avec la Ligue des Champions, puisqu'ils sont dans le même groupe que le Paris Saint-Germain. Vous croyez qu'ils peuvent...
Oh non, ça c'est autre chose, ne mélangez rien du tout.
Pourquoi?
Vous allez voir, ok.
On verra bien. Christian Chango, donc rapidement le classement.
Oui, bien sûr, le classement de la Première Ligue. Everton, premier, 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Aston Villa, deuxième. Leicester, troisième. Arsenal, quatrième. Liverpool, cinquième. Tottenham, sixième. Leeds est égalité avec Chelsea et Tottenham, sixième. City, est 14e, United 16e, Fulham 20e du classement.
Alors Liverpool aussi qui s'est pris, qui s'est mangé en 7-2, c'est pour la première fois depuis presque 50 ans qu'ils n'avaient pas encaissé 7 buts. Ouais. Est-ce que la question elle est simple? Est-ce que c'est parce que Sadio Mané n'a pas joué qu'ils ont pris 7?
Il y a pas que Sadio Mané. Il y a deux joueurs qui n'ont pas joué et je dis pas que c'est deux joueurs qui font un club. Hein. Je dis pas ça. Mais l'absence de Sadio Mané et du goal
Alisson
Becker, moi, leur goal, là, Adrien, ne me rassure pas du tout. À chaque fois qu'il est là, il y a toujours des problèmes, ce gardien. Donc, ils ont fait venir aussi Diego Jota. Et moi, j'ai toujours joué attaquant. Ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il cherche.
Non, il est pas mal.
Non, mais quand on est attaquant et qu'on a une passe dans la surface de réparation, qu'on veut contrôler dans la surface de réparation, ben ça, c'est mon père qui m'a dit de ne jamais faire ça. Donc, à ce niveau, moi, ce n'est pas un grand attaquant pour moi quand je l'ai vu faire ça.
Ouais, mais ton père. Vous avez joué contre les Comores, ils vous ont battu, donc tu
trois amis.
Diego Jota, je sais pas ce qu'il cherche là et là-bas. Il m'a déçu énormément.
Christian.
Trois Africains présents au démarrage de la rencontre sur le terrain. Mohamed Salah qui a quand même mis un doublé pour les deux buts de Liverpool. Naby Keita sorti aussi à la mi-temps. De l'autre côté, du côté de d'Aston Villa, Mohamed Trezeguet, l'attaquant égyptien qui était titulaire. Et à sa place est rentré El Mohamadi aussi en deuxième mi-temps. Et Bertrand Traoré également aussi, qui est rentré du côté d'Aston Villa. Les trois changements pour Aston Villa, Marvelous Nakamba, zimbabwéen, Bertrand Traoré, confrère de Adama Sorabié, et El Mohamadi. Donc plusieurs de nos représentants sur cette rencontre qui ont pu briller, notamment du côté d'Aston Villa.
Voilà, ça nous donne vraiment un trait d'union vers celui qu'on appelle El Mejor.
Or.
Plein feu sur la Liga, sur Africa.
Bon, messieurs, nous avons notre ami Adama Sorabié.
El Mejor.
Il va nous la refaire là pour nous faire plaisir, là, Adama. Adama, on vous écoute, bonsoir.
Bonsoir, Coach Lamine, bonsoir, Doyen Willy.
Bonsoir.
Bonsoir, Christian, bonsoir, Hélène. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans la meilleure Liga del Mundo. La cinquième journée qui a eu un ça tremble au Camp Nou des Vins, une équipe redoutable de Séville. Voilà. La journée a vu également Madrid qui s'est déplacé du côté de la banlieue de Valence et Madrid a empoché ses 3 points. Alors, voilà un peu cette cinquième journée que je vais donner l'occasion au jeune frère Christian de nous donner les résultats.
Cinquième journée en Liga, en Espagne, la meilleure Liga del Mundo, Valladolid, Eibar, 2-1 pour Eibar, 0-0 entre l'Atlético Madrid et Villarreal, la Sociedad a battu Getafe 3-0, Elche et Huesca match nul 0-0, Valence, Betis 2-0 pour le Betis, Osasuna, Celta Vigo 2-0 pour Osasuna, Alaves, Bilbao 1-0 pour Alaves, Levante a perdu 2-0 face au Real Madrid, Cadiz, Granada 1-0 et 1-0 comme l'a dit Adama entre le Barça et Séville. Au classement, le Real premier avec 10 points, le Betis deuxième avec 9 points, la Sociedad et Villarreal troisième à égalité 8 points, derrière Barcelone, Séville, Getafe, Valence, Cadiz, Granada avec 7 points, l'Atlético est 12e, Elche 16e, Valladolid en fin de classement 20e.
Est-ce qu'on a le même nombre de matchs?
Non, ah non. La plupart des équipes ont joué 5 matchs, le Real n'en a joué que 4, Barcelone et Séville n'ont joué que 3 matchs, donc il y a eu des problèmes, il y a des matchs qui n'ont pas pu avoir lieu, tout le monde n'est pas encore au même nombre de matchs. On est déjà à la 5e journée, des équipes ont déjà 2 matchs de retard.
Voilà. Donc, Adama, moi, ma première question concerne Barcelone. Et il y a eu des regrets, des excuses pour Messi qui enterre la hache de guerre. Est-ce que vous pensez réellement que c'est fini? Il a enterré la hache de guerre par rapport à tout ce qui se passe. Que disent les journaux? Et comment on vit ces regrets-là?
Non, honnêtement, Messi retrouve petit à petit sa joie de vivre, sa joie d'être sur un terrain et de se faire plaisir et de faire plaisir à tous ceux qui aiment le football. Donc on retrouve un Messi avec le sourire. On ne l'avait pas vu depuis plus de 2 mois et demi, comme cette semaine. Messi qui sourit, Messi qui participe, Messi qui, voilà, qui célèbre les buts de ses collègues. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que, comme on le dit chez vous en France, quand le vin il est tiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le boire. Donc aujourd'hui, Messi n'a pas d'autre porte de sortie que de donner son tout à un club qu'il a tout donné depuis son enfance à sa personne, un club qui l'a mené à être là où il est aujourd'hui.
Et il doit dire aussi merci à Ansu Fati aussi, non?
Oui, oui. Mais aujourd'hui, moi, on l'avait déjà dit la saison dernière, et ce jeune-là, il commence à attirer l'attention de la presse espagnole. On commence, moi, je trouve que c'est encore prématuré de commencer à le comparer à un Samuel Eto'o. Ses reprises de balles, voilà, il fait rêver, il ramène les sociaux, les blaugrana de se revoir au temps de Samuel Eto'o. Mais il est encore trop tôt, il n'a que 17 ans.
Ah, vous parlez d'Ansu Fati, là.
Ouais. Voilà, c'est quand même un début de cette Ligue avec le Football Club de Barcelone. Moi, je peux vous le dire, peut-être que si vous êtes d'accord avec moi, ce garçon est le meilleur du Barça depuis 5 rencontres.
Oui, voilà. C'est encore un peu. C'est encore un peu tout.
C'est ma manière de lire cette équipe du Barça. C'est vrai que la hache de guerre, on le dit, elle est enterrée, mais moi je vous dirais pas définitivement. Mm-hmm. Puisque la censure, la motion de censure contre le président continue, les gens continuent à voter pour
le dégager.
On l'arrête. Aujourd'hui, on a moins de, je crois, 2000 votes pour atteindre les 16 510 pour mettre fin au mandat du président. Mais tout ça, pourquoi? Ça veut dire que Messi arrive d'une manière directe ou indirecte à encore influer et à donner son influence vis-à-vis des sociaux. Et moi, je trouve que Bartomeu, au mois de mars, c'est juste... Pourquoi ne pas le laisser aller jusqu'au bout? Mais on veut le descendre. Ben, je crois que donc, si on atteint les 16 510 voix et qu'on stoppe le mandat de Bartomeu, ça veut dire quelque part Messi a gagné.
Ben, il va gagner. Tu
ouais, il va gagner parce que c'est lui qui a la clé du camion là-bas, au Barça.
Ah, ça, c'est clair.
Mais, j'aime bien cette expression.
mais justement pour continuer sur Messi, est-ce que le nouveau positionnement de Messi sur le terrain, parce que maintenant, il joue plus central qu'avant, est-ce que c'est une... on a donné plutôt les clés du camion, pour reprendre le terme du doyen, à Coutinho, qui est celui qui est plus distributeur qu'autre chose.
Oui, c'est vrai, quand on regarde le positionnement de Messi aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec Koeman, puisque pour Covid, aujourd'hui, on ne permet plus les interviews, il n'y a pas trop d'approches. Moi, je pense que si vous vous rappelez comment, lors des dernières saisons d'un certain Cristiano Ronaldo du côté de Madrid, comment Zidane avait réussi à le faire changer et à le faire changer souvent de poste et à le faire jouer moins que les saisons précédentes. Aujourd'hui, je pense que Koeman veut demander de plus en plus moins à Messi et de laisser les autres faire le travail. Et Messi à l'appui. Moi, c'est ma lecture aujourd'hui du système tactique du Football Club de Barcelone. Parce que Messi, il fait moins d'efforts qu'avant.
Et il est plus efficace.
Voilà. Coutinho, aujourd'hui, a plus d'espace pour s'exprimer. Mais, bien sûr, avec l'influence de Messi à côté. Et là où j'ai beaucoup de soucis à me faire, c'est concernant l'international français Antoine.
Ouais, Griezmann, j'allais vous poser la question.
Voilà, parce que Antoine...
Alors rapidement, il nous reste deux minutes.
Voilà, Antoine aujourd'hui, il a tout pour s'éclater, mais il se laisse dévancer par Ansu Fati, et donc je vois Dembélé aussi qui veut rester, qui est un grand technicien. Je ne saurais pas vous dire quel sera l'avenir de tous ces attaquants du côté du Barça, et on parle d'une arrivée de Depay. Je ne pense pas que Depay aura sa carte à jouer, même s'il venait du côté du Barça, avec cette attaque déjà qu'on a sur place.
Depay est plus talentueux que Griezmann, par exemple.
Non, mais Griezmann, on le fait pas jouer. Il faut reconnaître qu'on le fait pas jouer à sa place. Hein. Ça, c'est.
Oui, mais Griezmann, il faut vraiment.
J'écoutais l'interview de
J'ai un conseil à lui donner, d'aller jouer dans sa famille où on l'aime bien.
Oh là là. Monsieur, on va passer une page de réclame. Allez, c'est parti.
Plein feu sur la Liga, sur Africa.
Sur Africa, donc, radio, avec Christian Chango, avec Doyen Willy Drocono, avec Hakim Djellouat et le, bien sûr, le, comment on l'appelle ?
El Mejor.
Messieurs, Hakim, est-ce que vous voulez voir, par rapport à ce championnat d'Espagne, quelque chose qui vous a marqué avec votre compatriote El Zidane ?
Non, le dernier match qu'ils ont effectué, ils l'ont remporté. Karim Benzema a marqué, coach Lamine. Ça, c'est une bonne chose. Donc, bon pour la confiance, bon pour la suite de la compétition. Même si le début de saison n'a pas été aussi joli que ça. Maintenant, je pense que ça va être une saison intéressante, une saison nouvelle, une saison un peu compliquée par rapport à cette pandémie, la Covid-19. Parce qu'il faut le rappeler, quand il y a des joueurs qui sont effectivement susceptible d'être touché par ce virus, et bien ça peut handicaper tout un groupe. Maintenant, pour le moment, Zizou fait bien les choses. Au niveau de son effectif, il essaye de faire tourner du mieux que possible. Toujours avec Karim Benzema, donc au centre effectivement de cette attaque. Je voudrais poser justement cette question à Adama. Qu'as-tu pensé, Adama, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison de Karim Benzema, et qu'est-ce qu'il peut apporter cette année par rapport au groupe ?
Oui, Karim, qu'est-ce qu'il peut apporter par rapport à ce groupe ? Mais aujourd'hui, le Real ne sera plus une équipe du Real sans Karim Benzema. Et quand on suit le Real au cours de ces deux dernières années, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Qui a fait l'équipe du Real ? C'est bien sûr Karim. On a vu que après la reprise du championnat, face à la pandémie qui nous avait frappé depuis le mois de mars, Karim était revenu très très fort. Mais je crois savoir qu'il a pris un peu du retard pour relancer la nouvelle saison. Mais petit à petit, je crois que les Madrilènes seront contents de voir revenir à son meilleur niveau. Et ben, vous avez vu un peu le match du côté de Levante. Ben, Karim qui revient, le Real, qui se porte mieux.
Mmh. Oui, effectivement.
En tout cas, je suis étonné que Hakim ne nous ait pas parlé du transfert du fils de Zidane vers le WAC de Casablanca.
Le transfert du fils de Zizou, lequel ?
Enzo ?
Lucas ? Lucas, en tout cas, Lucas, il a signé à Valladolid, hein, si je ne me trompe pas, Adama, c'est ça ?
Non, c'est Lucas qui est à Valladolid, et puis voilà. Enzo est à Almeria.
Almeria.
Oui.
Il n'y en a pas un qui a fait le voyage vers le WAC de Casablanca ?
Non.
Ah, je n'ai pas eu les échos.
J'avais vu passer cette info, mais ça s'est pas confirmé. C'était en pourparlers, mais ça s'est pas confirmé.
Peut-être eu des discussions, ouais.
Dans ce que je regardais tout à l'heure encore, il n'y a pas eu de confirmation.
Ok.
Justement, sur l'Espagne, coach, je vais juste demander à Adama, on en parlera un peu tout à l'heure, du côté de l'Atlético Madrid, on avait vu que Arsenal était sur le milieu de terrain international ghanéen, Thomas Partey. Est-ce que tu as eu des informations là-dessus ou pas ? Est-ce qu'il est toujours en Espagne ? Est-ce qu'il va aller en Angleterre ?
Non, jusqu'à l'ère match nul lors de cette cinquième journée, il y était toujours. Je pense que l'Atlético de Madrid a beaucoup de difficultés. El Cholo va pas laisser partir l'une de ses pièces maîtresses aujourd'hui qui peut faire l'Atlético de Madrid, puisque l'Atlético de Madrid a encore les yeux sur un autre attaquant. On parlait encore, pourquoi pas Cavani, puisque Diego Costa, comme on le dit en Espagne, est ici en ce moment, quemado. Et donc, il est un peu brûlé, il y a Suarez qui arrive, qui veut tout brûler, mais qui n'y arrive pas pour le moment. Il y a une période d'adaptation, non, Thomas, il est toujours sociétaire de l'Atlético de Madrid.
Ok,
merci. Ok, c'est parti.
Ouais.
Plein feu sur la Ligue 1, sur Africa.
Messieurs, alors, donc, maintenant, c'est la France.
Oui, la Ligue 1.
La Ligue 1. Les résultats d'abord, oui, bien sûr.
Allez, on y va, coach, pas de problème. Sixième journée avec le premier match. Victoire du PSG face à Angers, 6 buts à 1. Lens qui continue, 2 buts à 0 face à Saint-Etienne. Nice a battu Nantes, 2 buts à 1. Défaite de Montpellier à domicile face à Nîmes, 1 but à 0. Bordeaux a battu Dijon, 3 buts à 0. Brest, Monaco, 1 but à 0 pour Brest. Metz, Lorient, 3 buts à 1 pour Metz. Strasbourg, Lille, 3 buts à 0 pour Lille. Rennes, Reims, 2 buts partout. Et hier soir, la dernière rencontre, Lyon, Marseille, 1 but partout. Au classement, Rennes, premier avec 6 points, à égalité avec Lille. Lens, 3e avec 13 points. Paris, 4e. Derrière, Montpellier, Monaco, Saint-Etienne, Nice avec 10 points. Bordeaux est 9e avec Marseille. 9e, Bordeaux et Marseille. En bas du Metz, 15e. Lyon, 14e. Strasbourg, Reims et Dijon ferment la marche.
Doyen.
Oui, la place de Lyon, c'est ça qui me fait parler. Mm-hmm. Et par rapport au match d'hier, donc, ils ont des occasions qu'ils n'arrivent pas à marquer. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Peut-être que M. Aulas va porter plainte.
Contre qui?
Contre la forme actuelle, de son équipe.
Parce que le numéro 10, Bertrand Traoré est parti. Ils l'ont fait partir. Donc, dans Willy.
Oui, mais...
Et lui aussi, quand il était là, il ratait des pénaltys aussi.
Hein. Oh, ben, tous les grands joueurs de cette planète ont déjà raté des pénaltys.
Ben ouais, mais lui, il a raté beaucoup quand même. Hein.
Non, lui, il marque des buts.
Ouais, mais il est parti, on n'en parle plus. Donc, il est parti, il marque des buts ailleurs. Donc
non, il a marqué qu'un seul but. Hein. Faut pas non plus exagérer. Hein.
Ouais, mais Coach Lamine, aujourd'hui, le problème du côté de l'Olympique lyonnais, je pense que les Lyonnais. Sont allés sur une équipe qu'ils ont montée à court terme, pas une équipe qu'ils ont montée à long terme. Donc, Aulas, il veut vraiment guérir sa trésorerie. Donc, il fait partie, il lâche facilement ses meilleurs joueurs. Donc, on n'arrive pas à monter une équipe stable. Donc, ce qui fait que Lyon a vraiment des soucis. Je ne sais pas si cette équipe de Lyon va pouvoir revenir à son meilleur niveau qu'on a connu en elle-même il y a quelques années, par le passé, même les deux dernières années, Lyon était encore là.
Moi, je ne suis pas inquiet pour Lyon. N'oubliez pas. Lyon,
hein,
je dis, je ne suis pas inquiet pour Lyon. N'oubliez pas que la victoire, elle est à 3 points. Hein. Donc là, ils sont à 7 points du premier. 2 victoires, ouais. Ça y est, ils reviennent dans la fête. Hein.
Et il y a plein de joueurs qui partent.
Oui, mais quels joueurs qui partent?
Aouar.
Aouar est là. Hein.
Ouais, Aouar, c'est confirmé, il reste. Hein. Je suis attentivement
là. Et
Depay, ce sera...
Depay, c'est fait, les croisés, il faut partir.
C'est fait, lui.
Depay, c'est annoncé, tu vas être au courant aussi, Adama, mais Depay, il y a un accord, là, les derniers termes sont en train de se négocier, mais
ouais,
Depay...
Jusqu'à minuit, Depay est encore lyonnais.
Voilà, et encore lyonnais, c'est ça.
Mais il va partir, il n'a plus envie de jouer.
Lui empêche les derniers contacts de se faire. Normalement, il se retrouvera du côté de la Mejor Liga del Mundo.
Ouais.
Et juste du côté de Lyon, sur cette rencontre, 3 Africains présents au coup d'envoi. Maxwell Cornet, international ivoirien. Toko Ekambi, international camerounais. Et Kadewere, international zimbabwéen, le jeune Kadewere, qui a joué à la pointe de l'attaque lyonnaise.
Ouais, c'était un peu trop tôt quand même. Il vient de Ligue 2. Hein.
Oui, il vient du Havre, notamment. Il avait été prêté. Et c'est un pari de Lyon. C'était un de ses premiers gros matchs. C'était compliqué, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on se forme aussi également.
Hakim, autre match qui vous a marqué ce week-end ?
Oui, celui de Reims et Rennes. Reims qui a arraché un point sur la pelouse du leader rennais. Avec beaucoup d'Africains du côté de Rennes, on en avait parlé, coach Lamine. Même si effectivement on a vu le départ de Mendy, Rennes reste effectivement une terre d'accueil pour beaucoup de nos joueurs africains. Ils ont réussi à tenir la dragée haute par rapport à cette équipe de Reims qui n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et c'était un match serré, coach Lamine, de partout. Une rencontre intéressante et Rennes, si je ne m'abuse, Christian, au classement, sont toujours...
Oui, Rennes premier avec 14
points. Toujours premier pour le moment, donc le club breton qui assure avec quelques joueurs africains qui font la part belle de ce club français, coach Lamine.
Oui, bien sûr, avec un Sénégalais qui remplit son autre Sénégalais, en gagnant du but.
Exactement.
Ça, il faut le dire, là.
C'est important.
Oui, mais coach Lamine, nous sommes fiers parce que voilà, c'est l'Afrique qui est représentée.
L'Afrique qui gagne.
Voilà. Ouais. C'est l'Afrique
juste...
qui gagne, quoi.
Voilà. Mais, Adama, est-ce que le Sénégal, c'est en Afrique ou...
Non, nous, on est sur une autre planète. Hein. Nous, on n'est pas sur le continent africain. Hein. Nous, on est sur une autre planète, nous.
Sur la planète des meilleurs.
Nous sommes sur la planète des meilleurs.
Le gardien, le jeune gardien rémois, coach Lamine, Yevan Diouf, je ne sais pas...
C'est un Sénégalais aussi.
Sénégalais, hein.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Ouais.
Sur les rencontres moi, qui m'ont marqué, je voulais en parler, c'était Metz-Lorient, 3-1 pour Metz. Comment ne pas parler de l'homme qui a marqué les 3 buts
En Sénégalais encore, non ?
Ibrahima Niane qui a mis un triplé international sénégalais, 21 ans, 14 sélections, 6 buts. Il faut savoir que Metz a marqué 6 buts cette saison, c'est lui qui a marqué les 6 buts, un triplé hier face à Lorient. Un doublé contre Reims et Metz avait fait un but partout face à l'OM. C'est lui qui avait marqué également, donc formé à Génération Foot. Il est du coup du côté de Metz. Il remplace évidemment un international sénégalais, Habib Diallo,
et Christian,
qui est parti du côté de...
Mais laisse-le finir, s'il te plaît.
Ouais, mais le centre de formation, ça se trouve où ?
Ah, mais j'ai dit Génération Foot.
Où ? Sur quel continent ?
Ah, mais à toi de nous le dire.
Ouais, mais c'est en Afrique encore.
Hein. Non, c'est pas en Afrique. Nous, sur la Lune.
Au Sénégal.
On joue dans le championnat de la Lune. Bah, je vous ai dit. Alors,
en tout cas, je voulais le mettre en avant. Lui,
ça, c'est très bien.
Lui, parmi tant d'autres, mais il a fait vraiment un gros match et il confirme son très bon début de saison en espérant que tout continue, qu'il n'ait pas de problème.
Et ça va continuer, ne vous inquiétez pas.
Dans cette rencontre, Angban, pardon, l'ivoirien, Maïga, international ivoirien, Niaï, Opanguet, Oukidja aussi, le gardien, le gardien algérien, donc du côté de cette rencontre, beaucoup de nos internationaux et de représentants de notre continent étaient présents sur le terrain ou sur le banc de touche et voilà, je voulais mettre en avant
Juste une précision, le gardien de but de Dijon.
Oui, coach.
Il est d'où ?
Dijon a perdu 3-0 face à Bordeaux, on le rappelle. Le gardien de Dijon Algab, je crois que c'est un Béninois si je ne me trompe pas, Saturnin Algab, pardon pour la prononciation. Oui.
Non, il n'est pas togolais.
Il est béninois, mais c'est tout.
Ouais, mais c'est un bon gardien, hein, parce que je l'ai vu.
C'est le gardien de la sélection.
Moi, je l'ai vu chasser des mouches. Hein,
non.
Sur les buts, il ne pouvait rien faire.
Ouais, mais on oublie très vite en football. Hein. On l'avait vu lors de la CAN, non ?
Oui, c'est lui.
Ah ouais, donc c'est un très très grand gardien.
Il en a pris 3 là.
Il en a pris 3 en tout cas.
Ouais, mais il n'a pas joué seul.
ils sont 10 avec le gardien sur le terrain.
Mais il faut savoir que c'est un portier, c'est pas une porte. Hein.
Autre match, les gars, vous n'avez pas parlé du PSG. Christian Sango, vous êtes déçu.
Non,
vous êtes déçu du PSG ou quoi ?
Du tout, c'était plus Metz qui avait retenu mon attention, mais c'est vrai, PSG, enfin, qui fait un match abouti avec une belle victoire 6-1. But hein, du côté d'Angers, but de Bauken, l'international camerounais, qui a mis le seul but du côté de Angers. Non, Paris a fait son match, hein, ils étaient au-dessus. Content du retour de Ganagay, qui était blessé, donc là, qui a pu revenir retoucher le ballon. C'était une victoire complète de Paris, mais Paris...
Et il a même marqué, hein.
Et il a marqué, tout à fait, aussi, donc mais c'est important.
Moi, je suis quand même inquiet du futur de Ganagay par rapport au Paris Saint-Germain, avec l'arrivée du milieu de terrain de Porto.
pas dire,
c'est un costaud. Lui. Oh, c'est un très grand joueur, lui.
Ah ouais, c'est un costaud.
Là, ça c'est le lot des grandes équipes. Il y a de la concurrence. Et
oui, c'est très bien pour lui.
Ce sera à lui de progresser, de retrouver la place. Et surtout, le niveau de jeu qu'il nous avait affiché au tout début avec Paris, c'est un grand joueur aussi. Il n'est pas au PSG par hasard, Ganagay. Il va falloir qu'il bataille et qu'il retrouve peut-être un peu plus de confiance en lui. J'ai l'impression, coach, je ne sais pas le reste de l'équipe, mais j'ai l'impression qu'il avait un peu perdu confiance en lui. Il n'était pas aidé aussi par le système de jeu de Paris, ouais. Mais il avait perdu un peu confiance en lui, mais il faut que ça revienne. C'est ça le sport de haut niveau.
Ganagay, il faudra juste lui préciser qu'il faut prendre des risques, comme le fait un garçon ouais. Comme
il joue trop limité. Mais ce qui est bien pour lui, Ganagay, ce qui est bien pour lui, c'est que les deux n'ont pas le même jeu. Le Portugais et lui n'ont pas le même jeu du tout. Le Portugais a un jeu comme Patrick Vieira. Or, Ganagay est plus fin. Donc, on peut les utiliser tous les deux. Ils n'ont pas le même jeu du tout.
Et il y aura une vraie concurrence, en tout cas.
Verratti est plus bruyant que les deux. Et selon moi.
Hein. Oui, selon
Verratti
toi.
Est bon, quand même.
Il est très bon.
Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon.
mais lui, il est béninois.
C'était une précision.
Messieurs, alors, un dernier tour de table concernant cette Ligue 1. Est-ce que vous avez d'autres vues, d'autres commentaires par rapport à cette cinquième journée?
Non, mais coach Lamine, moi je voulais quand même saluer la victoire de Nîmois qui sont allés arracher leur victoire du côté de la Mousson.
À Montpellier, oui. Ouais. Ça aussi, c'est pas mal ça.
Ouais. Ça a été un beau match. Je pense que si on n'était pas dans la Covid... Voilà, c'est le derby qu'il faut, voilà, qui sont très importants. Tout le monde s'est axé sur Lyon, les deux olympiques.
Ouais.
Et en oubliant l'Olympique Nîmois contre Montpellier, moi je trouve que ça a été un beau match, une belle victoire pour Nîmes.
Hakim, est-ce que vous avez un dernier truc de...
Par rapport à ce qui s'est dit, coach Lamine, moi je reste sur ma rencontre que j'avais un petit peu suivie, Rennes-Reims, et Rennes qui pour le moment tient toujours la dragée haute à ses équipes qui sont derrière pour le moment, même si effectivement, comme l'a dit Christian tout à l'heure au tout début, il y a effectivement des matchs en retard, mais pour le moment je reste focus sur Rennes et qui me séduit plutôt pas mal là pour le moment.
Un mot aussi, coach, pour finir sur Lens Saint-Etienne. Victoire 2-0 de Lens, but de Kakuta et Lens qui continue son bon début.
Incroyable.
Lens qui continue son bon début de saison. Malheureusement, pour Lens, Kakuta s'est blessé.
Ganago ou Kakuta?
Et Ganago aussi. Les deux ont été blessés, les deux ont été remplacés. Donc, c'est dommage pour Lens puisqu'ils étaient sur un bon début de saison. Du côté de Saint-Etienne aussi, on a l'international. Gabonais Bouanga qui a débuté la rencontre. Neyou, le milieu de terrain camerounais qui a fait une belle rencontre. Et on a vu aussi notamment, en saluant Salim, Kwabi Kazri qui est annoncé sur le départ et malheureusement qui est rentré en cours de jeu et qui a pris un carton rouge.
Voilà. Messieurs, l'heure des brèves, il nous reste une dizaine de minutes, on va faire le tour.
Ouais.
Donc, toi, n'oublions pas que la semaine prochaine, on va faire un gros dossier sur le transfert des Africains, n'oubliez pas.
Ouais. Exactement.
Et donc, Doyen, vous qui connaissez bien le monde des transferts, il faudra vraiment nous expliquer beaucoup de choses. Les dessous. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire...
Les dessus, surtout pas les dessous.
Les deux. Je vous ai entendu dire, c'est la valeur du joueur et tout ça. Je veux dire que Messi, c'est 200 millions, c'est 200 millions. Hein.
Ouais, c'est 200 millions.
C'est la valeur du joueur.
Ouais, c'est comme Bounassar qui va
au Bayern.
C'est pas mal.
Justement, donc, on va juste donner un
mot d'abord
sur la Ligue des Champions. Il y a eu le tirage au sort. On va donner rapidement les groupes. Le Red Bull Salzbourg, le Bayern Munich, Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou, groupe A.
Oh là là.
Groupe B, Mönchengladbach, les Allemands, l'Inter Milan, le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk. Un groupe qui nous intéresse, Manchester City, Marseille, Porto, Olympiakos.
Alors justement là.
Oui, on s'arrête dessus.
Votre favori, est-ce que vous pensez que Marseille va sortir de ce groupe?
à sortir comment
Passer le tour.
Ça va être un peu compliqué de voir Marseille, de ce que j'ai vu par rapport à Lyon, malgré qu'ils étaient à 10. Marseille traverse quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
Hakim,
vous m'entendez, coach Lamine?
Oui, on vous entend très bien.
Non, moi, je pense que l'OM peut tirer son épingle du jeu. S'ils restent effectivement sérieux sur toutes les lignes, coach Lamine, ils peuvent tirer leur épingle du jeu et pourquoi pas passer effectivement ce tour.
Adama?
Moi, je pense que Guardiola nous a toujours fait des surprises avec Manchester City devant les clubs français. Moi, je ne pourrais pas dire que Manchester City par favorite, Marseille a sa carte à jouer.
Donc, je rappelle le groupe. Manchester City, Porto,
ouais.
Marseille et
Olympiakos.
La dernière nouvelle qui vient de tomber du côté du Barça, de Barcelone, Depay reste à Lyon, Dembélé à Barcelone.
Non. Qui ça, Dembélé à Barcelone?
Il reste à Barcelone.
Ah, Dembélé, Ousmane. Ah, je pensais que c'était Dembélé de Lyon.
Dembélé reste à Barcelone.
Et Depay?
À Lyon.
Ah bon, ben d'accord, ok. Donc on reste en l'état. Ah
ouais. Le groupe D, messieurs, Liverpool, Atalanta, Bergame, Ajax, Amsterdam et Midtjylland, désolé pour la prononciation. Le groupe E, Chelsea, Rennes, Séville, Krasnodar. Séville et Krasnodar.
Oh, est-ce qu'on voit Rennes?
Je les vois aller en Europa League. C'est quand même leur première expérience. C'est une belle équipe, mais Chelsea et Séville ont quand même plus de compétences, d'expérience. Séville est champion d'Europe en titre, on le rappelle, et Chelsea est un habitué. Donc, je les vois quand même, ces deux équipes-là, au-dessus de Rennes.
D'ailleurs.
Oui, Chelsea a des choses à se prouver aussi. Hein. Donc, Rennes en Europa League.
Mm-hmm. Hakim?
C'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que Rennes reste le petit pousset de ce groupe. Chelsea a énormément d'expérience de par son entraîneur, qui a joué aussi la Ligue des Champions plusieurs fois, plusieurs saisons en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Donc je pense que Chelsea peut jouer les premiers rôles, mais pourquoi pas Rennes, essayer de bousculer un petit peu la hiérarchie. On l'a vu par le passé, ça s'est toujours produit. Pourquoi pas Rennes Moi, je pense que Rennes peut saisir ses chances à eux d'être sérieux dès le début, dès le début de la compétition.
Ok, oui.
Le groupe F, Bruges, Dortmund, Lazio, Zenit Saint-Pétersbourg. Le groupe G, Juventus, Barcelone, Kiev et Ferencváros. Le groupe H, le dernier groupe, United, PSG, Başakşehir et Leipzig.
Alors, PSG?
Ouais, ils sont en premier de groupe, suivi par le Manchester United.
Pour le PSG, ça va être la revanche. C'est un match, on rappelle, la fois que United et Paris sont affrontés. United avait sorti le PSG, United qui récupère Edinson Cavani, donc ça va être une belle rencontre, mais je vois quand même ces deux équipes un peu au-dessus. Attention à Leipzig, on les a vus en Ligue des Champions aussi, c'est une très belle équipe, et Başakşehir, l'équipe turque, je les mets peut-être un peu en dessous des trois autres.
Ok, autre brève,
on va donner donc rapidement quand même quelques transferts. Le doyen Willy en a parlé. Bounassar quitte Marseille, l'international français ou guinéen, quitte Marseille pour le Bayern Munich. Il a signé un contrat de 4 ans, transfert 10 millions d'euros. On rappelle qu'il est arrivé à Marseille en 2015 en provenance du FC Metz.
Oui.
Autre transfert, messieurs, un international camerounais qui quitte le PSG, qui était libre et qui lui aussi s'engage du côté du Bayern Munich pour un an. C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui signe, donc qui quitte le PSG. Lui qui a joué la finale de Ligue des Champions face au Bayern. Il est de retour en Allemagne pour lui. Transfert d'un an avec un an peut-être en option. C'était le contrat qu'il voulait du côté du PSG et qu'il a refusé du côté du PSG. Il est parti du côté du Bayern pour le prendre.
Ouais.
Autre transfert, autre annonce
Adam Ounas qui quitte, qui a été... Qui rejoint Cagliari après avoir fait un petit passage du côté de Naples, l'international algérien qui va vivre une aventure du côté de Cagliari pour peut-être certainement avoir un peu plus de temps de jeu.
entre transfert, justement, on continue avec un international algérien, cette fois qui va signer du côté de Lyon, c'est Djamel Benlamri, qu'on a vu jouer du côté de la CAN. Il était du côté d'Al-Sahabab en Arabie Saoudite et il s'engage du côté de Lyon. Lyon était déjà sur lui, voulait le faire signer. Ils attendaient de vendre un défenseur central, mais avec la blessure de Marcelo, ils ont accéléré. Et donc, international algérien, M. Benlamri, qui vient rejoindre la Ligue 1 et qui s'engage du côté de Lyon.
Mmh. Alors moi, j'ai quelques deux brèves. Le comité olympique égyptien a suspendu pour 4 ans le président du Zamalek, Mortada Mansour.
Oui,
Il n'est autorisé à exercer aucune activité sportive. Mortada Mansour, on le connaît. Hein.
On le connaît depuis longtemps.
C'est le fou furieux à la tête du Zamalek qui ne veut rien entendre du côté de la CAF. Hein.
Ouais, donc c'est juste pour le calmer peut-être. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui dans le football africain.
Alors, toujours en Égypte, le technicien Matsibane Pitso, nouvel entraîneur du club égyptien Al Ahly, et première victoire face à Al Makloun. Donc, c'est un Sud-Africain.
Oui, mais l'entraîneur de Sundowns aussi est parti du côté de Al Ahly. Mm-hmm.
Je crois, est-ce que c'est pas lui, c'est technicien Matsibane?
Oui, c'est lui.
Matsibane.
Donc, c'est bravo à lui déjà que le club le plus titré au monde se tourne vers l'Afrique pour prendre un coach. Ouais.
Alors qu'on était en train justement de placer un garçon que vous connaissez bien, il s'agit de l'entraîneur de
l'ancien du Mazembe, non?
Non, de la RDC, de votre ami
Ibengue.
Ah ouais, c'est un grand coach aussi.
Qui était pressenti, mais malheureusement, finalement, il n'a pas été pris. Okay. Est-ce que vous avez du dernier bref? Oui,
oui,
allez-y.
Coach, j'en ai une que j'avais notée que je ne vais pas donner. Donc, on rappelle, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et en préambule de ce tirage au sort, c'est Didier Drogba qui a reçu le prix du président de l'UEFA. C'est un trophée qui récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l'expérience professionnelle et les qualités personnelles exemplaires. Je cite le président de la FIFA, M. Seferin, à propos de Drogba. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ce n'est pas seulement un excellent joueur. Il a toujours gardé et porté haut les couleurs de sa patrie, briller en Europe et en Afrique. C'est un homme bien et il mérite ce trophée. On rappelle que ce trophée du prix du président de l'UEFA existe depuis 1998 et c'est la première fois qu'un joueur non européen obtient ce trophée. Donc encore un trophée pour Didier Drogba qui n'est plus en activité sur les terrains, mais de l'autre côté, on le rappelle.
Opération de com.
Et qui songe à renoncer à sa candidature à présidence.
En tout cas, belle opération de communication là. Alors, ça, c'est clair et net. Hein. Qu'on prépare. En tout cas, oui, allez-y.
Voilà, messieurs, c'est bon là au niveau des dernières news. On parlera de tous les transferts la semaine prochaine, hein, puisque jusque minuit, nos téléphones, nos tablettes vont résonner.
Ah ouais.
On fera un point complet de tous les mouvements de nos joueurs africains sur le continent et en Europe également pour tenir informés tous nos auditeurs.
Alors, Doyen Willy, avant qu'on ne termine, peut-être un coup de gueule pour terminer ce...
Un coup de gueule, simplement parce que cette affaire dont j'en ai parlé déjà, entre Neymar et Alvaro, et ça s'est mal terminé. Je savais très bien comment ça allait terminer par la banalisation de la situation. En disant que Neymar avait insulté le japonais Sakai aussi. Sakai avait dit non, que jamais ça ne s'est pas passé dans le match, qu'il n'a jamais été insulté par Neymar. C'est juste pour banaliser la situation qu'on accuse Neymar à tort. Mmh. Donc, ce qui m'a déplu, surtout cette semaine, c'est l'intervention de Didier Deschamps dans cette affaire, qui a dit que l'affaire est close. Je ne sais pas de quoi il se mêle. Si moi j'ai envie de pousser un coup de gueule, c'est pas à Deschamps de me dire de me taire. Donc je sais pas pourquoi il s'en mêle. Donc ça m'a choqué énormément. Mmh. Donc c'est un autre coup de gueule que Deschamps se taise. Il a l'occasion de se taire. Lui et Noël de Grette doivent faire autre chose que de se mêler des choses qui ne regardent pas.
De banaliser l'affaire.
De banaliser un crime.
Oh, d'accord.
Et parce que le racisme en est un. Mmh. On banalise pas un crime. Mmh.
Surtout revenir peut-être sur les déclarations du coach de Nice, Vieira.
Oui, mais soyons sérieux.
Il n'était pas tout à fait d'accord de la sanction.
Oui, mais il n'y a pas eu de sanction.
De la non-sanction.
Il y a eu une banalisation.
C'est ça, puisque le racisme, en général, c'est une bêtise qui n'est pas propre au football. Et comme Patrick Vieira l'a dit, donc ça a été banalisé. Que ce soit Neymar, joueur ultra connu ou d'autres joueurs moins médiatiques, ça reste la même bêtise, la même connerie. Et si les faits ont été avérés, il faut que ce soit sanctionné. Malheureusement, les éléments à charge n'étaient pas assez probants. Donc,
ça n'a pas été.
On ne saura jamais la fin de l'histoire.
Monsieur, c'est bon.
C'est dommage.
C'est terminé. Hakim Djellouad, merci beaucoup.
Merci, coach Lamine.
Doyen Willy, merci
coach,
beaucoup.
Merci, la belle Hélène.
Merci, madame Hélène Bizio. Merci, Christian Chango. Merci à Adama. On se retrouve semaine prochaine et n'oubliez pas, on va faire un point sur les transferts des Africains. Okay. C'est parti.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.